Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, je suis en compagnie de Françoise Briquel-Chatonnet pour évoquer les Araméens. Nom mythique qui se trouve dans la Bible, « Mon père était un Araméen errant », nous dit Abraham dans le Deutéronome. Un nom qui évoque une culture surtout, une langue attestée dès le 9e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est répandue dans tout le Proche et Moyen-Orient. À la suite de petits royaumes, des royaumes araméens, ensuite une langue qui est adoptée par plusieurs administrations impériales, celle des Achéménides, je crois, Françoise, vous allez nous expliquer ce point de vue, une langue qui se répand jusqu'en Perse, en Égypte, en Anatolie, mais aussi jusqu'en Afghanistan. Françoise, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors nous connaissons l'araméen parlé par Jésus et ses apôtres, une langue qui était répandue en Terre Sainte à l'époque, mais une langue en fait qui est beaucoup plus ancienne.
Une langue qui est beaucoup plus ancienne, effectivement, puisque d'abord pour ces attestations, on a les premiers témoignages écrits. Pour les langues, c'est quand même surtout les témoignages écrits qui sont le témoignage absolu, dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas à ce moment-là que la langue apparaît. On sait que des Araméens sont mentionnés déjà par l'empereur assyrien au 11e siècle avant Jésus-Christ. Et pour les quelques témoignages que l'on a avant, c'est la continuité de la culture du 2e millénaire en Syrie. Donc voilà, une continuité. Ce qu'il y a de nouveau au 9e siècle, c'est que, comme tous les peuples de la région, les Araméens adoptent l'écriture alphabétique, et donc commencent à laisser des documents dans leur propre langue. Alors qu'avant, tous les documents qu'on avait étaient écrits ou en cunéiforme logosyllabique, et donc dans la langue babylonienne, ou bien étaient écrits en égyptien. Voilà. Et là, tous les peuples du Levant, c'est-à-dire les Araméens, les Phéniciens, Israélites, Moabites, commencent à écrire leur propre langue. Donc les langues n'apparaissent pas, mais commence à laisser des témoignages écrits.
Donc une révolution qui se passe, qui passe par les lettres.
Qui passe par les lettres et donc par l'adoption d'un système qui avait été inventé au deuxième millénaire, mais qui, disons, explose dans sa forme linéaire au début du premier millénaire.
Donc une simplification de l'écriture finalement, c'est pour ça qu'elle est adoptée.
C'est surtout que c'est une écriture qui est adaptée à ces langues-là, alors que l'acadien était l'écriture de la langue babylonienne. Et que donc, on n'avait pas écrit les langues locales, sauf les noms propres, dans cette écriture étrangère. Et là, tout d'un coup, ils commencent à écrire en alphabet, et donc leur propre langue, tous ces peuples.
Alors j'évoquais des royaumes araméens, est-ce qu'on peut parler de peuple araméen ? Est-ce qu'on a une idée sur l'origine de...
Mais justement, l'origine, c'est que il semble bien tout ce qu'on connaît de la culture qui existait en Syrie au deuxième millénaire montre que, bon, c'est pas de l'araméen parce qu'il y a une évolution sur 1000 ans, mais qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que l'onomastique est dans la continuité, la langue est dans la continuité, et donc que les Araméens sont l'évolution dans la continuité de cette culture amorite qu'on connaît assez peu parce que justement on n'écrivait pas dans cette langue-là, mais qu'on peut savoir par soit des noms propres, soit par des erreurs que font les scribes de Syrie en écrivant la langue de Mésopotamie parce que... Voilà, comme quand on écrit anglais mais qu'on n'est pas très anglophone, on met du franglish. Voilà.
Alors l'expansion araméenne, en tout cas de cette culture par cette langue, portée par cette langue, s'est faite au sein de l'Empire achéménide, et c'est là où véritablement l'araméen devient une langue internationale.
Alors elle commence déjà avant, et on a des petits royaumes araméens qui finalement, on a des populations nomades qui ont des endroits un petit peu sédentaires, des villes structurées en chefferies, et qui se structurent politiquement peu à peu face à la conquête néo-assyrienne. Cette conquête du début du premier millénaire, qui est bien connue par la Bible, les Assyriens, voilà. Et donc, qui, avant d'arriver en Israël, en Palestine, conquiert peu à peu toute la Syrie, la boucle de l'Euphrate, puis le reste de la Syrie. Et face à cette conquête, c'est un petit peu face à cette menace que se structurent des royaumes araméens, et donc qu'on a des rois qui commencent à écrire des inscriptions. Donc c'est là qu'on a effectivement un certain nombre de textes, dont le roi de Damas, les rois de Damas, donc des rois qu'on connaît par ailleurs par la Bible, c'est intéressant. Ce qui permet aussi de bien dater ces inscriptions, parce qu'on a soit par la Syrie, soit par la Bible, des moyens de dater de façon approximative, mais assez précise quand même. Et puis, en deux siècles, 9e, 8e siècle, toute la région est conquise par les Assyriens. Et donc, l'habitude des Assyriens, et ça on le sait aussi par la Bible, c'était de déporter des gens. Donc ils ont déporté des Araméens partout au Proche-Orient. Et ces Araméens, bah, ils se sont implantés à Samarie par exemple, mais aussi jusqu'en Mésopotamie et au-delà de la Mésopotamie. Et ils ont fait leur trou, grimpé pour certains dans l'Empire Assyrien, et donc, peu à peu, ont araméisé l'administration, qui, au bout d'un moment, alors peut-être justement parce que leur langue s'écrivait avec une écriture plus facile, mais enfin, on a plein de tablettes où on a qui sont en acadien, mais avec un petit résumé en araméen sur la tranche qui permettait sans doute de les classer. Et puis, on a des représentations de fresques assyriennes superbes, où on a deux scribes, l'un qui écrit sur une tablette et l'autre sur quelque chose qui se déroule, sans doute une peau, sans doute pas un papyrus, parce que là-bas, et on voit que tout était fait dans les deux langues, y compris le comptage des têtes coupées aux ennemis. Parce qu'on est administratif ou on ne l'est pas. Et voilà, donc l'Empire assyrien a déjà largement utilisé l'araméen. Et alors après, effectivement, l'explosion vient avec l'Empire perse, qui était pourtant un empire de langue perse et pas du tout de culture sémitique. C'est Cyrus.
Parce que l'araméen est une écriture et une langue sémitique.
C'est une langue sémitique proche de l'hébreu ou de l'arabe. Voilà.
Donc comment se fait-il que les Perses l'adoptent ?
C'est
un grand mystère.
Oui, je ne crois pas qu'on ait d'explication particulière. Sans doute, effectivement, peut-être l'utilisation d'un certain nombre peut-être pas de tradition administrative chez eux, et donc au départ l'utilisation de spécialistes de l'administration qui savaient déjà l'araméen, c'est difficile à dire. Mais en attendant, alors donc dans tout le Proche-Orient, on a des populations araméennes. Par exemple, au sud de l'Égypte, le roi égyptien avait des mercenaires du côté d'Assouan qui étaient déportés de Palestine. Et donc là, on a une archive énorme en araméen. Mais on a aussi des inscriptions en araméen dans l'Anatolie, y compris l'Anatolie occidentale, et puis alors bien au-delà du Proche-Orient, c'est-à-dire jusque la région de l'Afghanistan et au-delà Ouzbékistan, aux frontières du Pakistan.
Alors là, ce sont les inscriptions.
Et même le décret de Cyrus.
Oui.
La grande inscription de Darius, je veux dire, qui a été le point du déchiffrement du vieux perse puis de l'acadien, est inscrite sur la feuille des Bishtun en vieux perse, acadien et lamite, mais on en a une version en araméen qu'on a retrouvée justement en Égypte.
Et je crois qu'il y a les inscriptions d'Ashoka aussi qui sont en grec et en araméen.
Alors là, c'est après l'Empire perse, effectivement, après la chute de l'Empire perse, en Asie centrale, l'empereur Ashoka, qui est celui qui unifie l'Inde, fait ses inscriptions où il relate notamment sa foi bouddhique en kharoshti, en langue indienne, mais aussi en grec pour certaines et en araméen. Donc ce qui signe que l'araméen s'était bien implanté et représentait une culture dans le nord de l'Inde. Enfin, il s'agit de l'Afghanistan, Pakistan.
Alors, je voudrais évoquer un livre avec vous qui est sorti déjà il y a quelque temps. On en avait parlé autour de ce micro, mais je me permets de le reciter. Le monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré. Car c'est le premier chapitre, en fait, de ce livre, de cet ouvrage qui nous a inspiré la thématique de cette émission. C'est de resituer, en fait, l'origine de ce monde araméen, donc est un monde porté par une culture, par une langue, et sans véritablement grand pouvoir. Il n'y a pas eu un empire araméen qui a dominé et qui a laissé sa trace ainsi. Mais nous connaissons l'araméen, en fait, à notre époque, par le syriaque et par la petite ville d'Édesse. Expliquez-nous un petit peu, Françoise Bricquel-Châtenay.
Alors, nous le connaissons à notre époque par le syriaque, qui est la langue des chrétiens du Proche-Orient, mais aussi par la culture des juifs du Proche-Orient, puisque c'est à côté de l'hébreu, ça a été la langue, y compris en Algérie, les contrats de mariage étaient rédigés en araméen. Donc ça déborde cela. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après la conquête d'Alexandre, on a l'impression que l'araméen disparaît, on n'a plus d'inscription au Proche-Orient. Et puis quand l'Empire séleucide, l'Empire grec, disparaît peu à peu, ou en tout cas perd tout pouvoir, plein de pouvoirs locaux commencent à écrire, et là, ils écrivent en araméen. On pense aux Nabatéens, on pense aux Palmyréniens, mais on pense aussi au royaume d'Édesse. Donc ce sont, à ce moment-là, des araméens qui ont évolué pendant 3 siècles indépendamment, l'écriture est devenue différente, la langue a pris des traits différents, ce qui fait qu'effectivement, l'araméen de Palestine, parlé par Jésus, n'est pas l'araméen d'Édesse qui deviendra le syrien. Mais c'est tout issu, plus ou moins, de cet araméen de l'Empire perse. Et alors, donc, celui qui a eu le dessin extraordinaire, c'est l'araméen parlé à Édesse, Ur-Hai en araméen, Urfa maintenant en Turquie, qui a été le cœur de la christianisation du Proche-Orient. Donc, la langue liturgique d'Édesse, la Bible traduite à Édesse, la première littérature chrétienne rédigée à Édesse, se sont diffusées partout et sont devenues la langue culturelle des églises qu'on appelle syriaques.
Alors, au-delà de l'écriture elle-même, au-delà des lettres, de l'alphabet, que reste-t-il à cette époque de tout ce passif araméen du premier millénaire? Est-ce qu'il y a des marqueurs culturels particuliers que l'on retrouve dans cette littérature chrétienne?
Oui, alors, il y a d'abord un texte absolument extraordinaire qui a été écrit sans doute au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est un roman dont le contexte se situe dans l'Empire assyrien, sous les rois Sennacherib et Assaradon, et qui est l'histoire d'un grand dignitaire araméen à la cour assyrienne, qui est le porteur du sceau du roi, qui a toute la confiance du roi, qui, n'ayant pas d'enfant, adopte son neveu, et celui-ci un jour le trahit, le dénonce, Aricar, puisqu'il s'agit d'Aricar, est condamné à mort, mais quelqu'un qui était proche de lui, le chasseur, décide de le sauver et donc de tuer un animal, c'est Blanche-Neige, hein, et de donner au roi le cœur de l'animal et de cacher Aricar. Et à ce moment-là, quelques temps après, le pharaon lance un défi au roi d'Assyrie. Personne n'est capable de résoudre ces défis. Et le roi d'Assyrie dit « si seulement j'avais encore Aricar ». Et là, on lui révèle qu'il existe toujours. Il relève le défi. Il permet au roi d'Assyrie de vaincre. Il retrouve son pouvoir et son neveu, fils adoptif traître, est mis à mort, comme tous les traîtres. Voilà. Donc on a un roman qui suit toutes les traditions du roman. Et puis sont insérés dedans un certain nombre de maximes de sagesse, notamment que Aricar assène à son neveu Nadim, qui sont dans une langue un peu différente, beaucoup moins marquée par l'acadien et sans doute plus d'araméen plus ancien. Et voilà, donc on a ce roman et puis cette tradition de maximes de sagesse, comme la sagesse dans la Bible. C'est tout à fait sur ce même modèle de proverbe, etc. Et ce texte a sans doute... Alors, il était connu au Proche-Orient, il est mentionné dans la Bible, dans le livre de Tobie, et puis il a été adapté en syriaque. Quand je dis adapté, c'est la même langue, mais quand même sous une forme différente. Et les proverbes ne sont pas exactement les mêmes. On les a adaptés à une nouvelle culture. Mais c'est un livre qui a eu, il y a plusieurs versions en syriaque. Il a ensuite été traduit en arabe, traduit en géorgien. De l'arabe, il est passé aussi en éthiopien, et il était passé aussi en grec, où c'est l'histoire, tout est adapté à Ésope. Et on a une traduction du texte grec par La Fontaine au début de ses fables.
Donc il s'agit d'un exemple
de texte qui s'est transmis et qui, jusqu'au 19e siècle, parce qu'on a plein de manuels, a été copié, alors qu'il n'a pas été christianisé. Il était copié dans les monastères de Mésopotamie. Et on en a un nombre important de copies au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il faisait ce texte pré-chrétien, faisait toujours partie de la culture des Syriaques. Alors, d'autre part, le Syriaque a été, l'araméen a sans doute été le vecteur qui a permis le passage dans la culture syriaque chrétienne d'un certain nombre de traditions proche-orientales. On voit toujours la culture syriaque comme très influencée par le grec, et c'est le cas. La Bible, enfin toute la tradition patristique, philosophique de grec est passée en syriaque. Mais ce que la recherche récente permet de voir de plus en plus, c'est qu'il y a eu aussi un héritage oriental qui s'est maintenu par exemple dans des formes littéraires. Alors là, il s'agit plutôt d'une tradition connue en acadien, mais bon, acadien, araméen, c'était vraiment la même culture, qui était de dialogue entre deux objets, qui permettaient d'exprimer un certain nombre de choses. Par exemple, en Mésopotamie, le dialogue entre le palmier et le tamaris. Dialogue qui est plutôt une compétition. Moi, j'apporte des dattes. Oui, mais moi, j'apporte ci. Mon bois est meilleur pour construire. Oui, mais etc., etc. Bon. Et on a ce genre de choses en syriaque qui a été christianisé, mais qui se fait toujours sous forme du dialogue. Et on en a toute une série, le dialogue entre Joseph et la Vierge, qui, au moment où Joseph découvre qu'elle est enceinte, ça se dispute un peu, ou etc. Et on a aussi un magnifique exemple, qui est le dialogue du chérubin et du bon larron, qu'on lit le Vendredi Saint dans la liturgie, avec deux cœurs alternés qui se répondent, le bon larron qui monte au ciel, et bon, le chérubin le connaît essentiellement quand même comme un larron. Et puis il lui dit, mais si, Jésus m'a dit que ce soir je serai dans le paradis, etc. Enfin voilà, il faut qu'il passe quand même le sas.
Nous évoquions tout à l'heure, Françoise, le rapport avec le judaïsme, avec le monde hébraïque. Quel est le lien avec l'hébreu, en fait, de l'araméen? Est-ce que c'est une langue qui est plus ancienne? Est-ce que c'est une langue contemporaine? Est-ce que les deux langues se sont influencées?
Alors, les deux langues apparaissent grosso modo au même moment parce qu'elles sont écrites à partir de la même époque. Donc, les traces sont à peu près contemporaines. Ce sont des langues qui sont de régions différentes. L'araméen, c'est la langue de la Syrie intérieure. L'hébreu fait partie d'un groupe qu'on appelle conventionnellement cananéen, qui sont les langues de la côte, comme le phénicien, par exemple. Donc, le phénicien, hébreu, et voilà. Donc, entre phénicien et hébreu, c'est vraiment des langues qui sont très très proches, dont la différence majeure est dans les voyelles qu'on n'écrit pas. Donc, voilà. Alors que l'araméen a quand même des traits différents, notamment l'absence d'articles, etc. On reconnaît de façon évidente un texte en araméen, alors qu'on ne distingue pas toujours facilement un texte en hébreu ou en phénicien. Et donc, elles ont connu leur évolution parallèlement. Mais l'araméen est devenu très vite une langue internationale. On en a un exemple au moment de du siège ou du blocage par Sennacherib de Jérusalem en 701. L'armée assyrienne,
dirigée par avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, bien sûr. Le Tourtanou est au pied de Jérusalem et le roi Ézéchias, qui est sur les remparts et qui discute avec l'armée assiégeante en bas, dit parlons en araméen, comme si c'était évident que la langue que parlait l'hébreu d'un côté et le roi d'Assyrie de l'autre, au mot international, et l'araméen.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'anglais d'aujourd'hui, d'une certaine manière, ou le français du XVIIIe
voilà,
siècle?
Voilà, c'est ça. Alors là, le chef de l'armée assyrienne dit, non, on veut parler en hébreu, il faut bien que tous les gens qui sont dans Jérusalem sachent qu'ils vont être massacrés si tu ne te rends pas. Et voilà. Donc, mais voilà, il veut parler la langue du peuple pour que tout le monde comprenne. C'est une sorte de prise de pouvoir, quand même. Mais, j'allais dire, assez naturellement, c'est en araméen que ces deux peuples qui ne parlaient ni l'un ni l'autre l'araméen auraient pu discuter.
Françoise, quelques mots. Aujourd'hui, vous êtes épigraphiste, vous enseignez vous-même, vous enseignez le syriaque. Est-ce que l'araméen s'apprend facilement? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'on ne peut entrer dans ces familles de langues que par le syriaque?
J'allais dire, il y a deux portes d'entrée, parce que les inscriptions sont très, on a peu de choses, et donc pour apprendre une langue, on n'a pas la tradition des inscriptions sur pierre, par exemple, c'est qu'on n'a pas de deuxième personne, on a ou le roi qui dit moi j'ai fait ça, etc., ou Sigi tel roi, troisième personne, enfin voilà, bon, par exemple. Donc j'allais dire, il y a deux portes d'entrée selon ce que l'on souhaite. Il y a l'hébreu biblique, qui est la porte ensuite vers tout l'araméen juif. Hébreu biblique, puis toute la littérature Mishnah, Talmud, et voilà. Et puis le syriaque, qui pour le coup s'apprend totalement indépendamment, qui a l'avantage d'être une langue, l'araméen en général, mais le syriaque particulièrement, très facile, parce que elle est peut-être moins marquée par que l'araméen biblique, comme l'hébreu, par la présence d'un texte sacré qu'on ne peut pas toucher et qu'il faut donc justifier. Donc le syriaque est une, parmi les langues sémitiques, sans doute une des plus simples, si ce n'est la plus simple, et qui est non seulement l'ouverture vers toute la littérature araméenne chrétienne, mais aussi vers, par exemple, le palmyrénien.
Nous étions ce matin en compagnie de Françoise Briquel-Chatonnet pour évoquer l'origine de la langue araméenne, et je tiens à reciter votre livre Le Monde Syriaque, que vous aviez fait aux belles lettres avec Muriel Debier sur les routes du christianisme ignoré. Merci Françoise.
Merci Sébastien.
Nous allons retrouver bientôt le service protestant, mais avant cela je voudrais remercier Marie Le Peintre, François Connac, Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Bon dimanche.